Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Vous le remarquez peut-être, la voix de Splash a changé. Étienne et Laurine sont partis vers de nouveaux horizons et ils m'ont laissé les clés. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'économie, sociologie et histoire en prépa à Rouen. Après quelques années à faire des cours, j'avais envie de parler d'économie un peu différemment. Cette saison dans Splash, je vais notamment vous parler de votre patron, de drogue, de farine, de fraude fiscale et aussi de sujets en plein dans l'actualité, comme le financement des universités et aujourd'hui, le congé paternité.
Un mois de congé paternité, c'est assez long.
Fin novembre, le Parlement a voté le budget 2021 de la Sécurité sociale, qui comprend notamment l'allongement de la durée du congé paternité de 2 à 4 semaines à partir de juillet 2021.
Le congé paternité sera doublé. Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui.
Pour moi, les 12 semaines de congé paternité, elles sont indispensables.
C'était un rêve pour beaucoup de jeunes pères comme Marc, dont la petite fille a quelques heures à peine.
Une sorte de nouvelle ère, l'ère où le papa est présent avec son bébé.
Est-ce que ça suffit, un mois de congé paternité? Pour l'instant, en France, le congé paternité de 2 semaines est pris par plus de 2/3 des pères. Devenir père, c'est bien souvent réorganiser une partie de son temps pour des tâches toutes nouvelles. S'occuper des enfants et aussi assurer une partie des tâches domestiques, le ménage, la cuisine, etc. Oui, mais si on regarde dans le détail les enquêtes de l'INSEE, on voit que depuis 1985, le temps parental a doublé pour les hommes. Ils passent 41 heures par semaine à s'occuper des enfants, contre 22 auparavant. Mais le temps consacré aux autres tâches domestiques, lui, a diminué. Et si on observe qui parmi les pères prend effectivement un congé paternité, il y a de fortes inégalités entre les salariés en CDI bien protégés et ceux qui travaillent à leur propre compte ou qui sont chômeurs. Ils sont bien moins nombreux à y avoir recours. Pas étonnant, le congé maternité, lui, est beaucoup plus long, 16 semaines en général. On retrouve ici un constat répété en économie et en sciences sociales. Lorsque les femmes sont par défaut censées prendre en charge une activité, eh bien, les hommes leur laissent le champ libre, sauf s'ils sont fortement incités à les relayer. Cependant, il faut tenir compte à la fois de trois critères ici. D'abord de ce qui se passe dans les couples, mais aussi de ce que peuvent décider les salariés face à leur employeur, et finalement, de la législation. Or, bien souvent, celle-ci est écrite au masculin neutre. Dans les systèmes d'assurance sociale mis en place au début du XXe siècle, par exemple, celui qui travaille est censé être un homme. Et sa conjointe touche des prestations en tant qu'épouse de « Monsieur Gagne-Pain ». On parle en anglais de « Male Breadwinner ».
Nous sommes projetés 50 ans en arrière.
Notre système de sécurité sociale est encore fondé sur cette partition implicite.
Et comme nous sommes en 1964, chacun dans la famille a un rôle bien défini.
Non seulement les congés paternité sont courts, mais le congé parental que peuvent prendre des salariés qui voudraient s'occuper pendant un an, voire deux ou trois, de leur bébé, est pris à 98% par des femmes. Vous l'aviez deviné. J'ai demandé à Hélène Périvier, économiste à l'OFCE, où se situait la France par rapport à ses voisins.
Voilà, la France était en fait assez en retard. Et donc la décision qui a été prise à l'automne d'allonger le congé paternité à 28 jours, c'est une décision qui permet à la France de revenir, j'allais dire, dans la norme des pays européens.
En Espagne, en Autriche, au Portugal, c'est 4 semaines également. Mais au Portugal, justement, il y a un bonus d'un mois si le père prend ses 4 semaines après les 6 semaines de la mère. Et l'objectif de l'Espagne, c'est de parvenir à 16 semaines en 2021. On pourrait encore citer d'autres exemples où les congés paternité ou parentaux sont en partie imposés au père, ou en contraire, transférables entre parents. Alors, pourquoi ne pas allonger plus vite et davantage le congé paternité? On peut poser trois hypothèses. Soit ça coûte trop cher à la sécurité sociale ou aux employeurs. Soit c'est un problème individuel. Trop peu d'efforts sont consentis par les pères et on voit donc mal comment leur en imposer davantage. Soit c'est carrément un problème systémique, c'est-à-dire de discrimination envers les femmes. Et dans ce cas, la durée du congé paternité n'est qu'un petit problème parmi l'ensemble des difficultés que rencontrent les femmes pour mieux partager les tâches. Commençons par le chiffrage. Combien coûte 2 semaines de congé paternité en plus ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les employeurs ne payent que les 3 premiers jours de congé maternité ou paternité aux salariés. Ensuite, les jours suivants sont pris en charge par la Sécurité sociale. Un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, paru en 2018, évaluait à environ 335 millions d'euros les 2 semaines supplémentaires de congé paternité. Facture à payer par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, donc. 335 millions d'euros, ça paraît beaucoup. Mais dans l'ensemble des dépenses de la Caisse nationale d'allocations familiales, c'est environ 0,4%. Pas négligeable, mais sans doute pas prohibitif. En tout cas, ce n'est pas une raison suffisante pour décourager des parlementaires de voter ce type de réforme. Il faut donc poser la question autrement. Le congé maternité, c'est un droit. C'est aussi une garantie pour les mères de disposer de suffisamment de temps pour prendre soin de leur santé et de la santé de leur enfant. Et de ce point de vue, le congé paternité est très comparable, comme le dit Hélène Périvier.
C'est sûr que dans le contexte actuel où on parle de 230 milliards d'euros de soutien à l'économie et à la société, c'est vrai qu'un demi-milliard, on n'est plus à ça près. Non, c'est pas, d'un point de vue des finances publiques, c'est pas quelque chose qui est très, j'allais dire, très coûteux. Ouais. C'est vraiment un nouveau droit social qu'on veut promouvoir ici.
Poursuivons avec le deuxième point. Qu'est-ce que ça change si l'on donne la possibilité aux pères de prendre ces congés sans que leurs employeurs puissent s'y opposer, du moins en droit? Le problème, c'est précisément que tous les pères n'y ont pas recours. On peut faire l'hypothèse que la paternité est vécue de manière différente d'un milieu à un autre. Ça pourrait expliquer que l'on observe un taux de recours aux congés paternité plus élevé parmi les cadres que parmi les ouvriers. Mais il y a une autre explication. Si vous travaillez dans un métier très masculin, il y a des chances pour que peu de vos collègues prennent leur congé paternité. Allez-vous le prendre à votre tour? Pas évident. C'est ce qu'on appelle la pression des pairs, PAIRS. Elle peut bien sûr évoluer, mais elle reste importante dans les professions très peu féminisées. Et d'ailleurs, elle joue aussi sur les femmes. Celles qui retournent très vite à leur emploi après leur congé maternité sont moins nombreuses dans les professions très féminisées. Et puis, il faut avant tout tenir compte des contraintes auxquelles font face les salariés, en raison de leur statut d'emploi.
Après, ce qu'avait mis en avant le rapport de l'IGAS, c'était qu'il y avait quand même des différences dans le statut économique et social des pères qui prenaient ce congé. Donc, c'était très souvent des pères en CDI. Donc, les travailleurs indépendants ne le prennent quasiment pas. Les pères qui sont dans des situations plus précaires ne le prennent pas. Donc, on voit bien que c'est quand même très dépendant de la stabilité et de la situation économique du père. Donc, c'était quand même aussi un problème, parce que si on considère que c'est un droit social important, eh bien, il doit pouvoir être pris par tous les pères au moment où ils ont un enfant.
Toujours selon le rapport de l'IGAS, 88% des fonctionnaires et 80% des pères en CDI prennent leur congé paternité, contre 48% pour ceux en CDD. C'est clairement un problème de pression de la part de l'employeur, qu'elle soit explicite ou simplement redoutée par avance par les salariés en question. On peut donc supposer que même si bon nombre de pères souhaiteraient s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants, ils font face à des obstacles, alors que les mères sont, elles, poussées à le faire. De ce point de vue, ce sont les recherches sur les congés parentaux qui sont les plus probantes. Attention, congé parental et congé paternité, c'est différent. Le congé parental d'éducation en France est à la fois méconnu et presque exclusivement pris par des femmes, à 98%. Évidemment. Il permet de suspendre son contrat de travail et de s'occuper à temps plein de son enfant pendant sa première année, voire sa deuxième et sa troisième année si on le renouvelle. Dans ce cas, on ne touche plus son salaire, mais seulement des prestations sociales qui en France sont très faibles, de l'ordre d'un tiers du SMIC. Cela incite donc ceux, ou plutôt celles, qui prennent un congé parental à continuer à travailler à temps partiel en parallèle. Or, en France, prendre son mercredi pour s'occuper d'un enfant, ce n'est quasiment jamais ce que font les hommes. Évidemment. Ailleurs, en revanche, ça peut être le cas, surtout si la législation l'encourage.
Par exemple, en Islande, ce congé, il est de 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père, 3 mois à partager. Et comme l'enfant ne peut pas être pris dans un mode de garde pendant la première année, le père n'a pas d'autre choix que de prendre ce congé, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité.
En fait, la comparaison France-Islande permet de montrer que le temps consacré par les pères à leurs enfants est largement dépendant des institutions qui ont été mises en place pour cela. On en vient donc au troisième point. L'ensemble des dispositifs pour encourager la maternité, qui pèsent bien plus lourd que le seul congé paternité. Pourquoi les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à s'occuper de leurs enfants en bas âge ? Pourquoi ces derniers ont-ils un rôle pour l'instant marginal ? Car il y a une répartition genrée de ces activités. Donc, si on laisse les couples choisir l'arrangement qui leur convient, il y a des chances pour que ce soit les femmes qui continuent à prendre en charge l'essentiel de ces tâches.
Je peux travailler, je peux t'appeler, penser aux vacances, au prochain resto, à la porte qu'on a toujours pas réparée, à ce qu'on va bouffer ce soir et à ce qui se passe à l'école. Je travaille, non mais il est ouf lui. Putain, j'ai raccroché, j'étais furieuse. J'étais là, le mec est tranquille au taf, il ne fait que bosser, il ne fout rien en fait.
Ici, on peut se dire qu'il y a un problème d'information. Peut-être que la plupart des pères ne connaissent pas les conditions dans lesquelles ils peuvent poser un congé paternité et donc qu'ils ne connaissent pas l'existence du congé parental. C'est sans doute vrai et plusieurs enquêtes pointent dans ce sens. Mais même en tenant compte de ce manque d'information, eh bien les pères qui pourraient y avoir recours ne le font pas. Hélène Périvier a travaillé là-dessus avec un autre chercheur, Grégory Verdugo.
Un point qui est intéressant dans l'étude qu'on a menée, c'est que lorsqu'on prend le congé à taux partiel, si on travaillait à temps partiel avant la naissance de l'enfant, alors on a droit automatiquement à toucher l'allocation à taux partiel, même sans changer son comportement d'activité. Et ça, on voit un taux de non-recours extrêmement élevé chez les pères, qui nous fait supposer qu'il y a certainement, dans l'imaginaire des pères, l'idée que ce congé n'est pas pour eux, quoi. Que ce congé, ils n'ont même pas cherché l'information, ce congé est fait pour les mères, il n'est pas fait pour les pères. Donc voilà, il y a des choses assez intéressantes du point de vue du genre qui seront à développer pour qu'on comprenne mieux comment s'organisent les deux membres du couple au moment de l'arrivée d'un enfant et quel est le rôle des politiques publiques pour modifier cette organisation très genrée.
Que peut-on faire alors ? Comment se fait-il que dans les pays scandinaves ou en Allemagne, le congé parental soit bien plus largement pris ? Et pas seulement par les mères. Parce que les pères sont obligés de le prendre. Et ça tient à un historique différent de la France. Dans ces pays, la norme, c'est que les parents prennent en charge la première année de l'éducation de leur enfant. L'État social verse donc une allocation pendant un an aux parents, avant que l'enfant soit mis dans une crèche, par exemple. Mais cela tient aussi à des variables démographiques. En Allemagne, les réformes ont été plus décisives dès les années 2000 parce que le taux de fécondité était plus faible qu'en France et qu'on assistait à des tensions sur le marché du travail. On voyait des femmes, y compris très qualifiées, hésiter à faire des enfants pour ne pas interrompre leur carrière trop longtemps. Depuis 2007, les Allemands ont donc mis en place des congés parentaux mieux partagés, y compris entre conjoints, pour combattre cette tendance. En France, on a encore un taux de fécondité élevé, à 1,9 enfants par femme. On ne peut donc pas compter sur cette motivation pour pousser les responsables politiques à réformer le congé parental. En revanche, on peut compter sur l'évolution progressive des normes de parentalité, et pas seulement dans les couples hétéros.
L'extension du mariage aux couples de même sexe, ça peut être aussi un moyen de dégenrer un peu l'organisation des couples, de d'étendre la vision de la parentalité, et donc peut-être que ça aura un impact. On a peu de recherches sur l'organisation des couples de même sexe, un peu aux États-Unis, en France, très peu. Ce sont des recherches souvent qualitatives, mais il n'y a pas beaucoup de données statistiques qui permettent de voir comment s'organisent ces couples. Donc voilà, on en saura peut-être plus tard, mais c'est un point intéressant pour voir est-ce qu'il y a à nouveau une réorganisation inégalitaire ou pas. Des couples d'hommes ou des couples de femmes s'organisent différemment. Donc voilà, il y a tout un ensemble de changements dans notre société qui appellent à plus d'égalité.
Tous ces changements dans notre société, ça pousse forcément à plus d'égalité dans les couples. Alors finalement, est-ce que ça suffit un mois de congé paternité ?
Est-ce que c'est assez ou suffisant ?
Clairement, un congé de paternité deux fois plus long, c'est un premier pas qui permettra au père de disposer de plus de droits. Mais si l'on veut vraiment associer tous les pères plus durablement à l'éducation des jeunes enfants, alors ça ne suffit pas. Il faut envisager qu'une partie du congé paternité devienne obligatoire. 4 semaines, ce n'est pas ça qui joue un rôle décisif dans la répartition des tâches au sein du couple, ni dans les inégalités entre hommes et femmes. Pour l'instant, ce sont elles, encore et toujours, qui interrompent leur carrière et se retrouvent discriminées, parce que les employeurs craignent par avance qu'elles s'arrêtent longtemps de travailler en cas de maternité. En France, ce genre de réforme est menée au nom de combats féministes, et pas pour remédier à une fécondité trop faible. Il y a encore du chemin à faire avant de persuader les responsables politiques, et les hommes plus généralement, des bienfaits d'un partage plus égal des tâches au sein des couples. Et ça permettrait d'amoindrir les inégalités dont sont victimes les femmes, y compris sur le marché du travail. Splash est une émission écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite et montée par Marine Rowe, enregistrée et mixée à l'Arrière Boutique Studio, coordonnée par Mathilde Jeunin. Splash est une production Nouvelles Écoutes. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et les références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission. Envoyez-nous vos idées et vos questions sur nos réseaux sociaux, on est preneurs. Rendez-vous lundi prochain sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine !